ça en devient drôle. Passer un certain stade, le noir vire au rose. Quand tout s'éclaire, c'est comme s'envoyer.
Éric Goulet, on vient d'entendre la pièce Du noir au jaune avec la formation Les Chiens.
Parlons théâtre. Je vous lis deux critiques, une dans la presse et une autre dans Le Devoir. D'abord dans la presse, Les Fourberies de Scapin, texte de Molière, mise en scène de Carl Béchard au Théâtre du Nouveau Monde jusqu'au 17 février. C'est une critique signée Mario Cloutier. Quelle galère, point d'exclamation. Les Fourberies de Scapin nous font rigoler ferme au TNM, mais plusieurs choix douteux de mise en scène laissent pantois. L'une des pièces les plus jouées de Molière, Les Fourberies de Scapin, illustre bien l'affection que Jean-Baptiste Poquelin vouait à la Commedia dell'arte. Naïveté, ruse, revirement de situation et fin heureuse. La pièce se déroule à Naples. Scapin apparaît comme le sauveur de la jeunesse qui tient tête aux avares et misanthropes qui leur servent de parents. À coups de roublardise, Scapin réussira à soutirer au second l'argent qui permettra au premier de se faire un heureux mélange, quoique contraire au choix des pères de famille. Pièce de la maturité, les fourberies reprennent les thèmes chers à Molière qui lui permettaient à l'époque de critiquer l'ordre établi. Ici, le subversif est mis au service du rire, voire de la bouffonnerie. La mise en scène de Carl Béchard, acteur comique de génie, s'il en est au Québec, accentue cette tendance à la franche rigolade, on rit, très souvent même. Benoît Brière, Géronte, et Patrice Cocro, Argante, triomphent dans ce genre baroque où le cabotinage est même bien vu. André Robitaille, Scapin, sue sang et eau dans une interprétation très physique. Les limites de ses expressions et une certaine froideur le font cependant œuvrer dans l'ombre des deux autres. Le reste de la distribution est convaincant, mené par un maître du rythme et du punch. La scénographie et les costumes contribuent aussi à l'efficacité de l'ensemble. Il ne s'agit pas de bouder son bonheur en allant voir les fourberies de Scapin, reste qu'il vaut mieux laisser sa tête au vestiaire. Tout est affaire d'équilibre en humour et la proposition ne fait pas toujours la part des choses à notre humble avis entre le juste assez et le vraiment trop. Par exemple, alors que plusieurs théâtres à Montréal font de sincères efforts pour intégrer dans des rôles substantiels des artistes de la diversité à leur programmation, le TNM fait, lui, figure de cancre. En fait, foi cette décision douteuse de donner des rôles mineurs aux talentueux Linz Dentiste et Tatiana Zinga-Botao. Pourquoi cette dernière n'a-t-elle pas obtenu le personnage de Zerbinette, dite l'Égyptienne? Et la chanson créole « Maladie d'amour », quel énorme cliché dans ce contexte. Sans parler du geste fort douteux de Géronte, Benoît Brière, qui s'essuie dédaigneusement les mains ayant touché à l'agonisant Scapin sur les manches de Carl, Linz dentiste. Là, on ne rit plus du tout. Les scènes de danse nous apparaissent totalement superflues dans cette proposition. Tout comme le soulignement au crayon gras de mimiques répétées ad nauseum comme celle du Turc. À la fin du XVIIe siècle, certains reprochaient à Molière le côté populaire et le caractère exagéré de sa pièce. Ça reste vrai aujourd'hui dans cette version ultra légère, un peu vide. En ce sens, le Scapin du TNM est tout à fait de son temps. Il n'a rien de subversif, surfant plutôt sur la grande vague du rire facile et magnifiquement consensuel. Autre critique de théâtre, Conditions de travail, Sarah Bertillon et Sébastien David explorent les coulisses du capitalisme. C'est la pièce Nio Taimori, texte Sarah Bertillon, mise en scène Sarah Bertillon et Sébastien David, une coproduction de La Bataille et du Centre du théâtre d'aujourd'hui. Au Centre du théâtre d'aujourd'hui jusqu'au 3 février, c'est un texte de Christian Saint-Pierre. La nouvelle pièce de Sarah Bertillon aurait tout aussi bien pu s'intituler « L'ère du vide ». C'est que Nio Taimori, expression qui désigne une pratique consistant à manger des sushis sur le corps d'une femme nue, décrit notre époque cruellement individualiste, encore terriblement semblable à celle décryptée par le philosophe français Gilles Lipovetsky en 1983. Bienvenue dans le règne de la séduction à tout prix, de l'indifférence érigée en normes, du narcissisme pandémique, de la dérision en toute situation, mais surtout de la violence généralisée. Le travail comme source d'aliénation, voilà plus spécifiquement le propos qui fédère l'ensemble des scènes parfois bien disparates de la pièce. Les protagonistes sont les victimes d'une société capitaliste axée sur la performance, fondée sur l'exploitation, une organisation dont toutes les sphères, sans exception, placent la rentabilité au-dessus de toute autre valeur, à commencer par la liberté. Journaliste, Maude est l'archétype de la travailleuse autonome, avec tout ce que ça implique d'insécurité financière et d'horaires chaotiques. Le sort de sa copine, enseignante au primaire, ne semble guère plus enviable. Entre les tours dorées de la création publicitaire à Montréal, les usines textiles situées en Inde et les chaînes de montage de l'industrie automobile au Japon, il y a des liens, des incidences que l'auteur s'échine malheureusement pas toujours de la manière la plus convaincante qui soit à mettre au jour. Offert sur un plateau quadrifrontal, un dispositif qui épouse la nature de l'œuvre, carrefour des territoires et des réalités, mais qui apporte somme toute bien peu à la représentation, le spectacle mis en scène par Sarah Bertiom et Sébastien David commence par ravir. En effet, la première heure, avec son rythme effréné et ses répliques savoureuses, dresse un portrait aussi authentique qu'amusant du quotidien rocambolesque d'une jeune pigiste déchirée entre le professionnel et le personnel, l'éthique et la survie. Malheureusement, pendant les 40 dernières minutes, l'action, prenant une tangente franchement fantaisiste, mais également un brin moralisatrice, s'enlise irrémédiablement. Reste à se délecter du jeu des acteurs. Dans la peau de Maud, un personnage qui n'est pas sans évoquer l'enquêtrice à la fois perspicace et candide de J'aime Hydro, Christine Beaulieu est désopilante. Dans les habits d'une couturière fourbue, Macha Lemonchik s'acquitte fort bien d'une lourde tâche, celle d'apporter une dose de gravité à la représentation. Quant à Philippe Racine, il brûle les planches dans chacun de ses rôles, à commencer par cet homme terriblement attachant qui espère emporter une voiture au terme d'une compétition d'endurance dont l'absurdité consommée est tout à fait emblématique de notre époque. Et pour terminer, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, bien placé pour les Oscars. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, drame de Martin McDonagh, a reçu le principal prix des SAG Awards, baromètre des Oscars, lors d'une cérémonie qui a mis les femmes à l'honneur. Ce film, qui avait déjà triomphé au Golden Globe, se place donc désormais parmi les favoris pour les Oscars, apogée de la saison des prix hollywoodiens, aux côtés de The Shape of Water, qui a gagné le prix des producteurs d'Hollywood samedi. Frances McDormand, interprète principale de Three Billboards, drame acide sur une mère qui loue trois panneaux publicitaires pour s'indigner de la lenteur de l'enquête sur la mort de sa fille, est repartie avec la statuette de la meilleure actrice de cinéma. Déjà lauréate d'un Golden Globe pour ce rôle, elle tient désormais la corde pour l'Oscar de la meilleure actrice, tout comme Gary Oldman chez les acteurs. Le Britannique de 59 ans a décroché un SAG pour avoir incarné Winston Churchill dans Darkest Hour. Ému, il a cité le grand homme d'État anglais. « On gagne sa vie par ce qu'on reçoit, mais on fait sa vie par ce qu'on donne. » Les SAG sont considérés comme un indicateur fiable pour les Oscars, car 1200 de ces quelques 6000 membres votent à l'Académie des arts et sciences du cinéma qui décerne les prestigieuses statuettes.
Y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, y a de la joie, dans le ciel par-dessus le toit, y a de la joie, et du soleil dans les ruelles, y a de la joie, partout y a de la joie, tout le jour, mon cœur bat, chavire et chancelle, c'est l'amour, qui vient avec je ne sais quoi, c'est l'amour, bonjour, bonjour les demoiselles, y a de la joie, partout y a de la joie. Le gris boulanger bat la pâte à plein bras, il fait du bon pain, du pain si fin que j'ai faim. On voit le facteur qui s'envole là-bas, comme un ange bleu portant ses lettres au bon Dieu. Miracle sans nom, à la station Javel, on voit le métro qui sort de son tunnel, grisé de soleil, de chansons et de fleurs. Il court vers le bois, il court à toute vapeur, et y a de la joie. La tour Eiffel part en balade comme une folle, elle saute la Seine à pieds joints, puis elle dit, tant pis pour moi si je suis malade, je m'embêtais toute seule dans mon coin. Et y a de la joie. Le percepteur met sa jaquette pli boutique et dit d'un air très doux, bien le bonjour. Pour aujourd'hui fini la quête, gardez tout messieurs, gardez tout. Mais voilà que soudain, je m'éveille dans mon lit. Donc j'avais rêvé, oui, car le ciel est gris. Il faut se lever, se laver, se vêtir et ne plus chanter si l'on n'a plus rien à dire. Et je crois pourtant que ce rêve a du bon, car il m'a permis de faire une chanson. Chanson de printemps, chansonnette d'amour, chanson de 20 ans, chanson de toujours. Et y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, y a de la joie. Dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie. Et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie. Partout, il y a de la... Tout le jour, mon cœur bat. Chavire et chancelle, c'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi. C'est l'amour, bonjour les demoiselles. Il y a de la joie, partout, il y a de la joie.
Et ça fait déjà 80 chandelles. Charles Trenet, il y a de la joie, 1938.
Alors, je vous lis la chronique de Patrick Lagacé de samedi, intitulée « Il s'appelle Nathan ». Pendant un an, Mathieu n'a pas eu de contact avec son fils adolescent, désormais quasi adulte, Nathan. Il y a eu entre les deux, comme on dit, un froid, une sorte de malentendu qui a poussé Nathan à cesser de parler à son père. Bon, pas de contact, c'est plus nuancé que ça. Disons des contacts à sens unique. Mathieu maintenait le lien et lui envoyait des textos. « Je t'aime. Je pense à toi. As-tu écouté le disque de X? Écoute le disque de X. Je suis là si tu veux parler. Tu devrais regarder la série Y. Et souvent encore, je t'aime. » Le fils habitait chez sa mère. Non, le malentendu n'avait pas de rapport avec la garde partagée par ailleurs excellente et ne répondait pas. Mathieu n'avait jamais de réponse à ses textos. Il ne savait même pas si Nathan les lisait. C'est une histoire père-fils universelle que je vous raconte ici. Tous les ados ne boudent pas leurs parents pendant un an. Mais existe-t-il un ado qui n'ait pas boudé ses parents? Tous les parents ont un minimum de difficultés à naviguer sur les flots agités de la communication avec leurs ados. Mathieu a commencé à me raconter ce silence buté de 12 mois, cette année d'ignorance active après m'avoir montré une photo dans son téléphone. Nathan souriant, prenant la pose classique pour la traditionnelle photo de graduation. Il tient le même ridicule diplôme enroulé que celui que je tenais quand j'ai pris ma photo de graduation en 1989 sur le même fond bleu matiné de blanc qui fut le mien. Il y a des choses qui ne changent pas. J'ai toujours pensé, m'a-t-il dit, que jamais je n'allais acheter ces ridicules photos de remise des diplômes. Et tu vas acheter ces ridicules photos de remise des diplômes, n'est-ce pas? Mais hein? Mathieu a fermé son téléphone. L'année de silence de Nathan face à son père n'a connu qu'une trêve. Une trêve de deux mots. C'était un jour de juin. La fête des pères approchait et Mathieu a écrit à son fils « Ça va être la fête des pères. Si tu me répondais, ça pourrait compter pour un cadeau. » Pas de réponse. Quelques jours ont passé. La fête des pères est arrivée. Bing! Mathieu a reçu un texto de Nathan. « Bonne fête. » Pas de ponctuation, pas de majuscule, le strict minimum. Pour des raisons qui lui appartiennent, Nathan refusait de parler à Mathieu. Mathieu m'a raconté comment il est devenu père par accident à 19-20 ans. Ça n'a jamais été une option pour lui et Anne-Marie de ne pas garder ce bébé. Mathieu m'a dit comment ce fut un coup de foudre. Il l'a aimé tout de suite, cet enfant. Il m'a aussi raconté le mal de vivre de cet enfant en grandissant, perceptible depuis son tout jeune âge. Cette gêne hors norme qui l'empêchait de même commander un verre d'eau au restaurant. Il aurait fallu parler à la serveuse. Cette façon de fixer le plancher quand il allait dans la famille élargie de ses parents. Mathieu m'a raconté les deux séjours de son fils en psychiatrie pendant l'adolescence. La deuxième fois après que Nathan eut dit à sa mère un soir « Il faut que j'aille à l'hôpital, je ne suis pas bien ». Pendant le deuxième séjour de Nathan à l'hôpital, Mathieu lui a refilé une clé USB avec le meilleur de sa discothèque. Mathieu est un tripeux de musique. Et la discothèque de Mathieu, ses milliers de chansons gravées sur cette clé USB, a fini par agrémenter, semble-t-il, toute l'unité où les ados en situation d'urgence psychiatrique séjournaient. Nathan a fini par sortir de l'hôpital. C'est là, après l'hôpital, que le silence buté de Nathan face à son père a commencé. Nathan a repris le fil de sa vie avec un mal de vivre mieux identifié, mais toujours présent. Mathieu, lui, envoyait sans relâche ses textos sans réponse. Il traquait aussi Nathan sur Internet en secret. Son fils y avait tout un réseau d'amitié virtuelle où il partageait son mal de vivre avec d'autres jeunes qui, eux aussi, avaient ce mal de vivre. Mathieu était rassuré, son fils parlait. Pas à lui, mais à d'autres. Nathan ne répondait toujours pas aux messages de son père. Et quand la mère de Nathan appelait Mathieu, chaque fois qu'il voyait le nom d'Anne-Marie sur l'écran, il se disait « Elle va me dire que Nathan s'est tué ». Et là-dessus, Mathieu, qui est un homme de peu de mots, m'a regardé et m'a dit sans préambule « Maudit que je l'aime ». Le silence de Nathan a fini par s'évaporer aussi brusquement qu'il était apparu. Mathieu est allé faire à manger chez son fils. Ils ont parlé de tout et de rien. Mathieu n'a jamais su quel malentendu avait poussé son fils à ne pas lui parler pendant un an. Mais il savait que son Nathan vivait des choses complexes. Il le savait parce qu'en le traquant sur Internet, Mathieu constatait que son fils se posait des questions sur sa nature profonde. À l'hôpital, la première fois, le buffet diagnostique était vraiment varié. Au menu, parmi 15 constats médicaux, troubles de l'identité de genre. Nathan avait 13 ans. « Nous, on t'aime », lui avait alors dit Mathieu. « Ta mère et moi, on t'a eu jeune. Ça a été compliqué. Nous étions de jeunes parents si jeunes. Après ce qu'on a vécu, rien ne va jamais nous déranger à propos de toi. » Entre les deux séjours en psychiatrie, Mathieu a compris que c'est vraiment le genre de son enfant qui lui infligeait un mal de vivre. Ce tourment-là était central dans sa vie. Et pendant le second séjour en psychiatrie de Nathan, Mathieu a mentionné au médecin les découvertes qu'il avait faites en suivant Nathan sur Internet. « Ma fille, lui a-t-il dit, a fortement l'impression d'être un garçon. » À ce stade de la chronique, vous l'aurez deviné, Nathan est une fille biologiquement. En entendant son père dire cela au médecin, Nathan a mal réagi pour plein de raisons qui le regardent. Être né dans le mauvais corps, dans le mauvais genre, ça vient avec son lot de complexité. Ce n'est pourtant pas après que Mathieu eut nommé les choses que Nathan a cessé de lui parler. À ce jour, Nathan ne lui a pas dit pourquoi il avait refusé de lui parler pendant un an. Mais Mathieu s'en fout au fond. Ils ont recommencé à se parler. Nathan est en pleine transition présentement. Les hormones, les formulaires de changement de nom, les rencontres de médecins. Se fera-t-il opérer? On verra. Son identité tient à bien plus qu'à ce qu'il a entre les deux jambes. Mais Nathan est rayonnant. Le mal de vivre s'estompe. Nathan s'en va au cégep l'an prochain. Il n'a pas encore choisi lequel. Il est en plein dans ces dilemmes-là. Papa est bien fier de son fils. Voilà donc pour la chronique de samedi de Patrick Lagacé, intitulée « Il s'appelle Nathan ». Et pour terminer, un article dans le Journal de Montréal d'aujourd'hui, apprendre sur le Québec en patin et ski de fond. Des nouveaux arrivants s'adonnent au sport d'hiver pour mieux s'intégrer. L'hiver québécois n'effraie pas un groupe de nouveaux arrivants qui se rencontrent chaque semaine pour expérimenter raquettes, ski de fond et patins à glace dans le parc du Mont-Royal. Avant d'arriver ici, je ne savais pas c'était quoi le froid, se rappelle Olivia Beteta. Originaire du Guatemala et installée à Montréal depuis 6 ans. Pour moi, le froid, c'était 16 degrés. Les choses ont bien changé pour celle qui est maintenant passionnée des sports d'hiver. Cette passion, elle l'a développée grâce à un programme de plein air interculturel offert depuis 2010 par l'association récréative Milton Park. Madame Beteta, c'est B-E-T-E-T-A, donc Beteta, participe aux activités du programme depuis 3 ans. C'est important pour moi de me forcer à faire des choses qui me faisaient peur, raconte-t-elle. Aujourd'hui, elle attend avec impatience les bordées de neige parce que c'est parfait pour la raquette et le ski. Samedi dernier, elle et une douzaine d'autres personnes participaient à une activité de ski de fond dans le parc au Mont-Royal. La coordonnatrice du programme, Adrienne Blattel, explique qu'au-delà d'encourager la pratique de l'activité physique, le plein air interculturel permet de favoriser la mixité sociale et les échanges linguistiques. Les gens se donnent des conseils sur le plein air, mais aussi sur la vie à Montréal et au Québec. Parfois même sur les emplois, remarque-t-elle. Les activités se veulent aussi un outil d'intégration à la société d'accueil en créant un sentiment d'appartenance. Ça aide à mieux comprendre la culture au Québec, parce que c'est très culturel les façons de profiter de la nature. Ici, on a développé des façons plus appropriées pour profiter du plein air au maximum. Bien que le programme soit ciblé pour les nouveaux arrivants, Mme Blatel précise que les activités sont ouvertes à tous ceux qui voudraient s'initier au plein air et partager sa culture avec des gens de différents horizons. L'association récréative offre une programmation 4 saisons. L'été, les nouveaux arrivants peuvent être initiés au canot-camping, à la randonnée ou au kayak. Environ 3 000 immigrants ont participé aux activités depuis 2010. Rosenberg Romero, originaire de la Colombie, enfilait samedi ses premiers skis. Il s'est installé à Montréal avec sa famille à l'automne 2016, mais n'avait pas eu la chance de se familiariser avec l'hiver jusqu'à maintenant. Quand on est arrivé ici, on ne pouvait pas profiter de l'hiver parce que les premiers mois, on doit faire toutes les affaires pour commencer la vie ici au Québec. Maintenant qu'il est bien installé, il peut enfin découvrir les joies de la saison froide. L'hiver, ce n'était pas un stress. Au contraire, on pensait beaucoup que c'était une chose amusante. Nous sommes ici au Québec, donc il faut profiter de l'hiver. Anthony Loury, qui a quitté la France pour Montréal en septembre dernier, partage cette vision. L'hiver québécois, c'est quelque chose qui m'attirait. Après, j'avoue que j'ai quand même souffert un petit peu, plaisante-t-il. Il faut bien s'équiper. Voilà, c'est tout pour l'émission Le quotidien des quotidiens de ce lundi 22 janvier 2018. Merci beaucoup, Jean-Sébastien Laliberté, à la mise en onde et au choix musical. Merci à vous d'avoir été à l'écoute et je vous invite à rester avec nous dans quelques minutes, les Paractualités, si vous nous écoutez en direct. Et j'aurai le plaisir de recevoir en studio plein d'élèves qui vont faire des entrevues. Des élèves de la classe DA pour difficultés d'apprentissage qui ont fait des émissions de radio. Alors, c'est dans quelques secondes, minutes.